Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui proposent toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
Chez Nebdo, Mathieu Jolivet sur BFM Business.
Bonjour et bienvenue, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle heure de Chez Nebdo qui sera largement consacrée au Brexit qui secoue l'Europe. Comment est-ce que ce Brexit est vécu et vu par les autorités à Pékin? Vous allez voir, c'est passionnant. Il y a autant ces éditoriaux chinois qui se frottent les mains pour dire « regardez les limites du modèle des grandes nations occidentales », mais il y a aussi derrière des enjeux financiers très importants avec l'internationalisation du yuan ou bien cette séquence qu'on vit actuellement avec cette montée en puissance des investissements chinois. Est-ce que ce Brexit qui secoue l'Europe peut freiner ces investissements chinois? On va largement en parler avec Jean-François Di Melio qui représente le think tank Asia Centre et aussi avec l'investisseur David Bavrez qui est installé à Hong Kong mais qui est de passage avec nous ici dans le studio de Chez Nebdo à Paris. Puis bien sûr durant cette heure vous retrouverez tous vos chroniqueurs dont le patron de Fred & Farid Group qui est installé à Shanghai, Fred Rayard qui nous dit tout ce qui a buzzé sur les réseaux sociaux, ou encore l'investisseur André Lezecroc-Pietri, ou bien notre éditrice chinoise Fei qui nous établit un pont culturel entre la France et la Chine. Allez, c'est parti. Et comme chaque semaine, on file à Shanghai écouter battre la Chine sur ses réseaux sociaux.
BFM Business, Fred in China.
Fred in China, c'est votre chronique digitale unique. Chaque semaine, le patron de Fred & Farid Group, Fred Rayard, avec ses équipes depuis Shanghai, arrive à nous dire ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Il a les data, les données scientifiques entre les mains pour nous dire justement ce qui a fait le buzz et en tirer des grandes leçons de stratégie digitale et des grandes leçons aussi sociétales en Chine. Bonjour Fred.
Bonjour Mathieu.
Allez Fred, on commence avec le hot topic qui concerne justement le Brexit.
Oui Mathieu, alors le hot topic cette semaine, c'est le Brexit qui a beaucoup fasciné les Chinois puisqu'on en est à plus de 1 milliard de médias impressions sur Sina Weibo. Donc le 23 juin, 51,9% à haute. Et pour les Chinois, il faut imaginer le 24 juin d'émission du Premier ministre, il faut imaginer à quel point c'est complètement surréaliste pour les Chinois de donner comme ça la parole à un peuple et le peuple va décider par un référendum, prendre une décision aussi importante économiquement et politiquement. Pour les Chinois, dans leur globalité, c'est absurde. Et ils sont très contents, finalement, de ne pas être dans une démocratie. En tout cas, la majorité des discussions étaient plutôt à remettre en question la démocratie et à exposer les dangers de la démocratie en disant que c'est un truc qui ne pourrait surtout pas arriver en Chine. Il ne faudrait pas que ça arrive en Chine. Il ne faudrait pas laisser les AI, les femmes de ménage, décider comme ça du destin d'une nation. Et lorsqu'on voit une nation plus petite et a priori plus éduquée dans sa moyenne, qui est l'Angleterre par rapport à la Chine, arriver à une décision aussi absurde, c'est que vraiment la démocratie est un système dangereux. Donc on a vu beaucoup ça sur la toile. On a vu aussi beaucoup de blagues avec par exemple des femmes qui disent que c'est génial parce qu'avec les fondements du pound, de la monnaie, de la livre sterling, c'est comme si on avait 10% de solde aujourd'hui lorsqu'on achète des produits anglais. Et puis un KOL qui s'est amusé à comparer l'Union Européenne à un groupe WeChat avec donc UK, France, Spain, etc. à l'intérieur de ce groupe. Et régulièrement, les nations, donc les personnages de ce groupe WeChat, devaient poster une digital hongbao pour remercier la globalité, et que l'Angleterre en avait marre de poster des digital hongbao, et que donc elle a quitté ce groupe WeChat. Voilà, donc, c'est une analogie qui a beaucoup fait rire les Chinois et qui a beaucoup circulé sur la toile. Et puis aussi des Chinois qui réalisent à quel point c'est un mouvement historique en ce moment, ce qui est en train de se passer, avec beaucoup de rapprochements sur le Gaokao, vous savez, le bac, et des Chinois qui disent que très probablement, il faut s'y intéresser à ce qui se passe en ce moment, parce que très probablement, ce sera un sujet du baccalauréat chinois dans les années qui viennent. Voilà Mathieu.
Allez, on continue Fred avec votre hot brand de la semaine, c'est Vunk.
Oui Mathieu, la hot brand de la semaine, c'est un groupe immobilier chinois qui s'appelle Vanke, V-A-N-K-E, qui est très connu et très aimé des Chinois. et qui fait aujourd'hui, donc c'est très successful, ils font aujourd'hui 100 milliards de chiffre d'affaires par an. Et donc ils ont une culture d'entreprise très très forte sur des valeurs comme la simplicité, la transparence, le sens des responsabilités, et surtout avec un leader charismatique, un entrepreneur, un fondateur, un Laoban très puissant qui s'appelle Wang She, W-A-N-G, plus loin S-H-E, et c'est quelqu'un qui est adoré des Chinois parce que il a su insuffler donc des belles valeurs sur son entreprise. Et puis il a abandonné ses parts en 1988. Ce n'est pas quelqu'un qui est animé par l'argent. Il est animé par la passion, par l'entreprise, etc. Et donc il avait cédé ses parts en 88 et était resté chairman. Et c'est un grand leader, on va dire charismatique, spirituel, culturel. C'est un personnage passionné. Il va partir dans un long trek en Himalaya. Il va épouser une célébrité. Il va s'inscrire à Harvard, aller aux États-Unis après sa retraite, et donc pour réapprendre, pour se challenger lui-même, etc. Personnage très inspirant donc, et qui incarne vraiment cette entreprise. Et aujourd'hui, pourquoi c'est la marque de la semaine? C'est parce que toute la Chine en a parlé, parce que il y a deux actionnaires principaux maintenant dans cette entreprise. Il y a Baoneng, le groupe Baoneng, et le groupe Warren. Et les deux sont en fait en conflit un petit peu pour prendre le pouvoir dans cette entreprise, mais surtout Baoneng a demandé à limoger, donc à se débarrasser, à sortir définitivement le fondateur Wang She. Et c'est ça qui a beaucoup choqué en fait. Imaginez un nouvel actionnaire de Virgin qui demande à ce qu'on limoge le patron de Virgin. Imaginez les conséquences en images, imaginez à quel point ça pourrait occuper les tabloïds. Et donc voilà ce que c'est en ce moment en Chine. Et donc c'est un véritable reality show en fait qui s'est lancé sur cette entreprise, avec donc Wang She qui essaie de se défendre et qui essaie de rester en place, mais quand même beaucoup de pronostics sur le fait que ils vont très probablement réussir à le sortir de cette entreprise. Donc on ne sait pas encore quel sera le dénouement de cette histoire, et donc c'est aujourd'hui en tout cas la marque de la semaine, Mathieu.
Allez, on termine, Fred, avec le hot post de la semaine qui vous a touché autour des ouvriers.
Oui, Mathieu, le hot post de la semaine est très touchant, très émouvant. C'est sur les ouvriers. Ce sont des ouvriers qui portent en fait dans une usine qui fait du fer, du métal, et qui portent en fait le matériau brut, la poudre, chaque jour, et la déplacent pour cette usine. Ce sont des personnes en plus assez âgées et qui ont une vie tellement, tellement dure pour un salaire tellement dérisoire. Ils doivent déplacer 300 tonnes par jour et ils sont payés 60 centimes de renminbi par tonne, ce qui est absolument dérisoire. Et donc ils arrivent à la fin de la journée à 200 renminbi par jour. 200 renminbi, c'est rien, c'est 3 euros, quoi, 3 euros, ouais, à peu près, je crois. Et donc c'est très touchant parce que on voit à quel point de ces très belles photos, déjà ce sont des très belles photos, vous pouvez les voir sur le site fredinchina.com. et puis c'est très choquant parce que dans la presse en Chine, la Chine va tellement de l'avant, elle est tellement dynamique, elle est tellement digitale, on voit tellement de success stories tous les jours dans le digital, on suit de près le BAT, le Baidu, Alibaba, Tencent, on suit tout ça, et de temps en temps comme ça, il y a des événements dans les médias qui nous rappellent l'autre Chine et qui nous rappellent la fracture absolument colossale entre les deux Chines. Et donc beaucoup, c'est un reportage qui a beaucoup touché en fait les Tier One Cities, c'est-à-dire que les gens vivant dans les grandes villes urbaines développées ont été très touchés. Et il y a beaucoup d'incompréhension parce qu'on en oublie presque l'autre Chine vit dans de telles conditions difficiles. C'est presque de l'esclavage, on va dire, c'est de l'esclavage moderne. Et donc c'était très émotionnel et les commentaires était très empathique, on va dire, envers ces ouvriers. Et donc beaucoup d'engagement en fait en digital, on voit tout de suite l'engagement puisqu'on a eu 234 000 retweets sur Sina Weibo avec 200 000 likes. Donc c'est un sujet qui a beaucoup touché les Chinois et avec beaucoup de demandes en fait de régler cette situation. De beaucoup de gens espèrent que le gouvernement arrivera à harmoniser un petit peu ça et être plus juste envers cette Chine là.
Merci beaucoup Fred, à la semaine prochaine.
Merci Mathieu.
Et reste avec nous tout de suite notre éditrice Faye.
Chine Hebdo, le monde selon Faye.
Ce monde selon Faye, c'est le regard aiguisé de votre éditrice Faye installée à Pékin, qui chaque semaine nous établit des ponts culturels entre la France et la Chine. Bonjour Faye.
Bonjour Mathieu.
Aujourd'hui, je crois que vous voulez nous parler de football. Alors ça, je savais pas que ça vous intéressait le foot. Hein.
Mais bon, Mathieu, je ne connaissais pas avant l'importance du football. Parce que j'ai toujours pensé que c'est un simple sport et c'est qu'un jeu. qui m'amuse pas beaucoup. Mais récemment, j'ai un ami chinois qui m'a expliqué que le football, c'est essentiel, surtout dans une période pacifique comme aujourd'hui. Parce que le football, c'est comme une sorte de guerre moderne dans une société en paix. Donc, c'est un grand défouloir pour quitter les pulsions guerrières des hommes ou des femmes. En tout cas, il y a une vraie fonction.
Ah, il y a une vraie réflexion derrière. Mais vous pensez que le foot est au monde pacifique un peu ce que les toreros et les jeux étaient dans l'arène romaine?
Absolument. Et pas que ça, parce qu'il y a deux autres choses au sujet de foot qui m'ont vraiment marqué cette semaine, de mon point de vue de cet ami. Vous savez tous que l'équipe de foot chinoise n'est pas très très forte. Et on a beaucoup d'autres réussites, pas mal de médailles dans plein de différents sports. Mais le foot, les Chinois, c'est comme si on n'arrive pas vraiment d'arriver à top, même en Asie, comparé aux Japonais ou aux Coréennes. Donc pourtant, je me suis dit, il n'y a quand même que 11 personnes dans une équipe. Sur 1,5 milliard. Donc, en théorie, on devait avoir quand même trouvé 11 personnes les plus qualifiées pour avoir une équipe top. Mais je pense que ça, c'est pas une histoire de taille ou de physique. Donc, on réfléchit pourquoi les foot chinois sont pas très forts. Donc, c'est pas la taille, c'est plutôt la capacité de chacun, de cette équipe, de chaque membre de cette équipe, de pouvoir penser et agir et contribuer d'abord au groupe, mais aux autres membres et de l'équipe. Donc, je fais la réflexion de chinoise. Peut-être parce qu'on n'est pas assez fort, parce qu'on est un peu trop smart. Mm. C'est le phénomène de culture chinoise un peu contemporaine. C'est que tout seul, on prend un chinois, il est très fort. Il est un héros, il est intelligent, il est social, il est tout et tout. Mais quand on met tous les gens ensemble, on n'est pas très fort.
C'est ça, c'est que...
On ne voulait pas trop laisser briller les autres.
Ouais, c'est ça. Vous critiquez les limites de l'individualisme à travers ceux qui veulent briller tout seuls dans cette équipe de foot chinoise. Ça, c'est de l'autocritique hein, pour entre les Chinois, Faye. Mais il y avait une autre marque que vous vouliez apporter.
Récemment, on a entendu que l'équipe de foot de l'Islande a gagné contre l'Angleterre. Ça, c'est le grand nouveau. Je pense qu'on en parle beaucoup dans les presses de sport.
David contre Goliath.
Personnes. Oui, absolument. Ces 11 personnes venant de l'Islande, c'est la petite équipe hein, qui a joué comme s'il était une seule et même personne. C'est impressionnant comment ils sont réunis et soudés. Et j'ai entendu aussi qu'il y a 30 000 personnes venant de l'Islande pour soutenir ce match. C'est quand même énorme par rapport à un pays qui a 300 000 de population. Donc, c'est 10% de population. C'est super impressionnant. C'est la preuve que dans cette guerre de la football, la guerre civilisée, la taille du pays, c'est pas la plus importante, c'est la capacité de réunir les meilleurs candidats. Donc, quand on voit jouer les 11 joueurs d'Islande, on a l'impression que ces 11 joueurs, leur soi, leur ego n'existe pas, qu'ils sont tous eux-mêmes un certain rôle secondaire, mais le rôle premier, c'est leur pays. Et ça, c'est très, très fort pour moi, pour nous, quand on est chinois, quand on regarde, quand on admire leur unification.
Et d'ailleurs, c'est imminent, Faye, hein. La France s'apprête à jouer contre l'équipe d'Islande en quart de finale. Hein. Est-ce qu'ils vont refaire le coup de David contre Goliath? Cette fois, on n'espère pas. Allez, à la semaine prochaine, Faye.
Nous aussi. On espère la France qui gagne.
Allez, à la semaine prochaine, Faye.
À la semaine prochaine. Merci Mathieu.
Et restez avec nous, hein, dans un instant, on reçoit Jean-François Dimelio qui va nous parler du Brexit vu de Chine.
Chine Hebdo, Mathieu Jolivet sur BFM Business.
Bienvenue si vous nous retrouvez dans Chine Hebdo. Cette semaine, hein, la planète financière mondiale, mais allez, on va dire l'ensemble aussi de la planète politique, avait les projecteurs braqués sur Londres et Bruxelles hein, pour essayer de comprendre les conséquences politiques et financières du Brexit, sachant que pour la première fois, les dirigeants de l'Union européenne se retrouvaient pour un conseil de famille et d'explication à 28. Ça, c'était mardi dernier à Bruxelles. Et puis mercredi matin, il n'y avait plus que 27 chaises puisque David Cameron était rentré seul chez lui à Londres. Comment est-ce qu'on regarde ça de Chine, où il y a des intérêts, bien sûr, financiers, mais où aussi la situation politique intéresse beaucoup? On tente de comprendre tout ça avec notre grand professeur hein, qui représente ici le think tank Asia Centre, Jean-François Dimelio, qui est avec nous en studio. Bonjour Jean-François.
Bonjour Mathieu.
Peut-être déjà pour commencer, avant de rentrer dans ce détail du Brexit vu de Pékin, c'est vous qui me le disiez juste avant l'interview, le goût très prononcé des Chinois pour les événements historiques.
Absolument. Bon, il faut se souvenir que même si aujourd'hui on a tendance à l'oublier, la formation, que je dirais marxiste, ou en tout cas de tradition hegélienne, est encore très forte en Chine quand on a fait des études. Et ça imprègne la mentalité. Donc quand on voit un événement historique, on est fasciné par cet événement historique, on l'interprète, on regarde, on essaie de comprendre ce qui se passe. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est les différents niveaux de lecture de cet événement, y compris à des niveaux où peut-être, vu d'Occident, on ne les attendrait pas, c'est-à-dire que les réseaux sociaux font preuve d'une très grande finesse d'observation, très grande finesse d'analyse, et regardent cet événement effectivement comme un événement historique, parce que, vu de Chine, l'Europe était quelque chose qui commençait à exister.
Après, vu des réseaux sociaux, il y a des événements historiques qu'ils peuvent se permettre de regarder et d'autres non. Je pense là au printemps arabe, par exemple, qui n'était pas forcément l'exemple le plus pertinent vu de Pékin, vu des autorités de Pékin, quand on sait que chez eux, ils essayent de tenir d'une main de fer ce qui se passe dans la province du Xinjiang. Et d'ailleurs, on en entendait moins parler sur les réseaux sociaux. Là, l'enjeu est plus financier. En plus, on parle d'un pays d'une grande démocratie. Donc, on laisse tout le monde se déchaîner, j'allais dire, sur les réseaux sociaux.
Alors effectivement, c'est comme vous le dites, quand on dit réseaux sociaux, il faut voir quelle est la part de spontanéité, quelle est la part de censure. Mais les échos sont multiples, parce qu'effectivement, quand vous comparez aux pays arabes, quand vous comparez au printemps arabe, il n'y a pas la dimension d'État-nation et il n'y a pas la dimension à tiroirs multiples. Vous en mentionnez une pour les printemps arabes, mais il y a encore plus de tiroirs dans un esprit chinois quand on regarde ça. Le premier tiroir, bien sûr, c'est un événement historique auquel on assiste. Le deuxième tiroir, si j'ose dire, c'est cette Europe qui était déjà un point d'interrogation à la fois pour les citoyens chinois qui commencent à venir et qui commencent à connaître, mais aussi pour les dirigeants chinois qui s'étaient habitués progressivement à venir à Bruxelles. Rappelez-vous que le voyage d'un dirigeant chinois à Bruxelles au siège de l'Europe est très récent. C'est le dernier voyage de Xi Jinping. Et donc, on est en train de se poser des questions. Est-ce que il faut qu'on réapprenne tout? Et puis, le tiroir supplémentaire, c'est les échos que ça a pour la région. Et dans certains des articles de presse que l'on voit, il y a la question, est-ce qu'une intégration régionale, d'abord c'est quelque chose qui va toujours dans le même sens, ou est-ce que ça peut aussi aller à l'envers, la dialectique marxiste? Et puis, est-ce que c'est une chose qu'il faut encourager, ou est-ce que c'est quelque chose qui est porteur de risque? Et immédiatement, l'ASEAN, avec un autre sujet dont parlera certainement dans les semaines qui viennent, et la désunion de l'ASEAN qui fait écho à la désunion de l'Europe en face du sujet qui va être traité maintenant, on le sait, le 11 juillet à la Cour donc d'arbitrage sur la fameuse plainte philippine, la désunion de l'ASEAN fait écho à la pseudo-désunion de l'Europe. Donc vous voyez, il y a plusieurs échos, y compris, bien sûr, en ce qui concerne l'Europe et les aspects financiers dans lesquels la Chine est très investie.
Nos amis chinois qui ont ce goût de l'histoire, il y avait justement une formule, alors vous rectifiez si je me trompe, mais qui était, je crois, de Kissinger, non ? Qui disait que le problème avec l'Europe, c'était qu'on n'a pas un seul numéro
bien
de téléphone, mais autant que de pays, que d'États membres qui composent cette Europe. Aujourd'hui, vu de Pékin, justement, on commençait, vous le disiez juste avant, à intégrer l'Europe comme un ensemble, où on y voyait 28 interlocuteurs.
On commençait à y voir un avantage, je pense, là où c'était vu soit comme une opportunité plus ou moins malsaine, parce que la désunion européenne que pratiquait Pékin et qu'encourageait Pékin pour pouvoir placer ses pions de façon différente dans certains pays, cessait d'être un vrai avantage. Pékin était entré dans un jeu où l'Europe pouvait être un allié, sinon un cheval de Troie, en tout cas un équilibre intéressant dans les relations internationales, à un moment où les relations entre Pékin et Washington se tendent. Aujourd'hui, c'est un grand point d'interrogation. À qui est-ce qu'on va parler? Est-ce qu'on aura encore des interlocuteurs qui feront attention à nous? Est-ce qu'on pourra passer du temps avec les Européens? Et n'oubliez pas que nous avons le G20 chinois. Le G20 chinois, donc début septembre à Hangzhou, a un agenda qui a été déjà préparé, qui est en train de se préparer. Les G20 ont toujours, on a eu l'occasion d'en parler, ce qu'on appelle un black swan ou une surprise. Ça va être la surprise, cette histoire de Brexit. Parce qu'en face de cet agenda, qui était un agenda de prise en main par la Chine, de ces grandes réunions internationales, eh bien on va avoir une espèce de kidnapping de l'agenda par un événement qui était peut-être prévisible. On en avait parlé lorsque j'étais à Shanghai.
D'ailleurs, vous avez vous-même, absolument, Jean-François Di Meglio, prévenu ces organisateurs du G20 chinois il y a quelques semaines en leur disant, voilà, attention, il y a ce Brexit qui va s'inviter. Ce sera peut-être le Black Swan de votre G20.
Quelle que soit l'issue, quelle que soit l'issue.
Vous aviez vu juste, d'ailleurs.
Quelle que soit l'issue, de toute façon, on aurait eu à en parler. Et on ne pouvait pas miser uniquement sur un agenda piloté par la Chine.
Donc, vous avez raison, je repense au G20 organisé par la France sous la présidence de Nicolas Sarkozy, Black Swan Grèce. Avec Papandreou qui était venu et qui avait menacé de faire un référendum à l'époque.
Absolument.
Et on ne parlait plus que de ça.
Absolument. Donc cet événement compte pour la Chine.
Cet événement compte pour la Chine. Il y a aussi, alors derrière, j'aimerais bien aussi savoir quels sont les enjeux financiers vus de Pékin, parce qu'on sait qu'il y a une bataille internationale pour capter le yuan notamment, bataille entre places financières, la City forcément qui était, j'imagine, le mieux positionné. On sait que Paris Europlace bataille aussi pour essayer de capter la monnaie. Il y a aussi Francfort. Est-ce que pour le coup vu de Pékin, on se dit finalement mauvais point pour Londres, et on va regarder de plus près ce qu'on peut faire à Paris.
On se dit même pas ça. C'est plus compliqué, si j'ose dire. Il y a trois enjeux. Le premier enjeu, c'est que l'Angleterre, le Royaume-Uni est la première destination d'investissement chinois en Europe. Huawei s'est dépêché de dire que ils allaient accélérer leur investissement prévu en Angleterre, parce que il faut faire vite et il y a de gros investissements en jeu. Donc qu'est-ce qui va arriver à ces investissements? Il faut que la Chine mise sur une continuité malgré tout du dispositif économique européen, parce que sinon cette tête de pont qui a été établie, eh bien elle va perdre marginalement de la valeur. Le deuxième enjeu, c'est la volatilité des marchés. Le yuan est dans une phase effectivement d'intégration progressive, la volatilité ne sera pas bonne. Or, on voit bien, on l'a vu dès le lendemain du Brexit, les marchés de devises en particulier connaissent beaucoup de volatilité, les marchés boursiers aussi.
Et donc, il vaut mieux qu'ils s'arriment à l'euro qu'à la livre sterling.
Il n'est pas question qu'ils s'arriment à la livre sterling, parce ils s'arrimeront pas non plus à l'euro. Mais la question, c'est de savoir quel va être l'impact sur l'intégration dans les marchés, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va traiter le renminbi, est-ce qu'il va être marginalisé dans les marchés d'échange, est-ce qu'il va beaucoup bouger. Et puis, le troisième enjeu, c'est effectivement l'enjeu place financière. Et là, personne n'a la réponse aujourd'hui, même si on peut effectivement avoir son analyse personnelle et penser que Londres restera probablement une place offshore. Vous savez, de la même façon que Hong Kong, on n'a pas parlé de Hong Kong, mais l'une des dimensions de la relation sino britannique, c'est aussi Hong Kong. Or, Hong Kong, c'est la place financière de la Chine.
On en parle régulièrement ici et avec vous, cette montée en puissance qu'on observe des investissements chinois en Europe. Aujourd'hui, est-ce qu'il est trop tôt pour dire ce qui va se passer? Est-ce que ils vont regarder la situation? Est-ce qu'ils vont considérer l'incertitude actuelle dans son ensemble et se dire, faut lever le pied peut-être dans un premier temps sur les investissements en Europe, je parle des 28, 27 plus Grande-Bretagne, et puis on attend de voir comment les choses se clarifient, ou est-ce qu'ils peuvent déjà se dire, là où il y a le moins d'incertitude, c'est peut-être le bloc à 27 et on verra pour le Royaume-Uni plus tard?
Le mouvement est enclenché de façon générale sur les 28. Les 27 plus 1 même, on peut dire. Ça ne peut pas se ralentir. C'est encore une fraction, comme on l'a dit souvent, de la capacité, de la force de frappe chinoise en termes d'investissement. Il y a probablement une sectorisation plus ou moins consciente par la Chine des pays. C'est-à-dire que certains pays intéressent pour certaines raisons. On voit avec l'acquisition de KUKA en Allemagne que c'est les machines-outils allemandes qui intéressent les Chinois. On voit que le tourisme intéresse beaucoup en France. L'Angleterre, c'était effectivement un certain nombre de domaines où Huawei était présent, mais aussi l'automobile. Cette sectorisation va se maintenir. Et je ne pense pas qu'il y ait plus de prudence. Il y aura sûrement des opportunités, parce que si les différentes devises et le sterling en particulier baisse, eh bien c'est une opportunité de plus pour des acquisitions chinoises.
Dernière question, Jean-François Di Meglio. Je voulais revenir quand même sur la symbolique, sur le plan politique. Est-ce qu'il n'y a pas, une opportunité aujourd'hui de Pékin d'aller dire, ou en tout cas, des grands éditorialistes qui relaient la parole de Pékin, de dire, de se frotter un peu les mains et de se dire, regardez ces belles démocraties occidentales, elles touchent.
C'est présent. C'est exactement présent.
On voit là leurs limites.
On n'a pas du tout parlé des éditoriaux. Alors, ce qu'il faudrait dire aussi, c'est que quand même dans les éditoriaux, le Brexit n'est pas en première ligne. La mer de Chine du Sud reste
toujours
en première ligne. Mais dans les éditoriaux, c'est exactement ce que vous dites. Le processus démocratique qui ouvre des risques démesurés par rapport aux décisions qui sont prises par les dirigeants est quelque chose de vu comme négatif par les dirigeants chinois aujourd'hui.
Vous c'est ça, de toute façon, on le voit dès qu'il y a le shutdown aux États-Unis par exemple, où toute la planète financière est suspendue au vote d'un congrès américain qui n'est pas d'accord sur le budget, ou aujourd'hui avec l'Europe, ils ne s'en privent pas.
Hein. Oui, mais rappelons quand même que la messe n'est pas dite, donc on verra bien.
À suivre. Merci beaucoup Jean-François Di Meglio, qui représente ici le think tank Asia Centre et qu'on retrouve très régulièrement, qui nous livre ses analyses précieuses pour comprendre comment les lignes bougent dans cette Chine contemporaine. Restez avec nous, dans la prochaine demi-heure, nous allons recevoir David Bavrez, investisseur français basé à Hong Kong, qu'on entend aussi maintenant de plus en plus régulièrement dans Chine Hebdo. Mais avant, les infos sur BFM Business.
Chine Hebdo, Mathieu Jolivet sur BFM Business.
Bienvenue si vous nous retrouvez dans cette seconde demi-heure de Chine Hebdo où l'investisseur David Bavrez, qui est en studio avec nous, va nous accompagner pour nous dire comment est-ce que lui perçoit aujourd'hui ce ralentissement de l'économie chinoise, comment est-ce qu'il perçoit, vu de Hong Kong, le Brexit et quelles opportunités d'investissement cela va offrir aux entreprises chinoises qui investissent en masse aujourd'hui en Europe. Mais avant, comme chaque semaine, on vous emmène dans les bagages d'un autre investisseur français, un des plus influent en Chine, André Lezocroupe-Pietri.
BFM Business, Chine Hebdo, ABC, Business China.
Avec André Lezocroupe-Pietri, le patron du fonds A Capital. Bonjour André.
Bonjour Mathieu.
Alors André, votre key data de la semaine?
Alors le key data, c'est le moins 15%. C'est donc la chute de la livre. Alors c'est assez étonnant, c'est que j'ai passé une partie de la semaine au Forum économique mondial qui se tenait à Tianjin, qu'on appelle le Summer Davos. Et là, les investisseurs chinois, tous les Chinois ont voulu faire un petit peu bonne figure en disant non, c'est au contraire une belle opportunité, on va investir encore plus. Mais bon, ce que ça cache quand on parle vraiment avec eux, on va dire en plus petit comité, c'est que il y a quand même une sensation en Chine qu'on s'est un peu trompé de meilleurs amis. Rappelez-vous, il y a un an, c'était la période de diamants, les noces de platine, l'amour, l'état de grâce entre la Grande-Bretagne, enfin, le Royaume-Uni et la Chine. Le Royaume-Uni a été le premier à reconnaître la Banque asiatique de développement. Enfin, plein de choses qui allaient dans le bon sens. Le Brexit a vraiment changé tout ça. Et les Chinois se retrouvent, comme tout le monde, complètement surpris de ce qui s'est passé. Et ils n'avaient pas du tout prévu le coup.
Allez, on continue, André, avec votre key trend de la semaine.
Écoutez, le key trend, c'est il y en a deux. Un, j'ai été vraiment surpris il y avait toujours beaucoup de monde. On nous dit qu'il y avait 1700 participants. Il y en avait 1500, donc que c'est un record en termes de nombre de participants au Summer Davos. Mais dans les faits, écoutez, j'ai vu beaucoup, beaucoup moins de grands patrons, de grands groupes. Souvent, les grands groupes internationaux étaient représentés quand ils étaient représentés par leur patron de pays. Et pour moi, ça démontre ce dont on parle depuis quelques mois, c'est qu'il y a une vraie China fatigue.
C'est ça, la China fatigue, ouais.
Il y a un événement la semaine dernière qui a vraiment un petit peu énervé tout le monde. Je ne sais pas si vous avez vu cette histoire de Apple, qui avait déjà été accusé de contrefaçon par un très modeste fabricant d'accessoires qui s'appelle iPhone. Et là, maintenant, c'est un sombre inconnu qui produit des téléphones mobiles qui accuse Apple, peut-être à raison, je ne sais pas, d'avoir copié le design de l'iPhone 6. Il a gagné. Il y a un appel qui a été interjeté par Apple, donc c'est suspensif. Hein, Apple peut continuer à vendre ses iPhones, mais c'est une menace énorme sur ça. Et surtout, je pense que là-dessus, les Chinois se tirent une balle énorme dans le pied parce que tous ceux qui veulent faire de l'innovation et installer des centres de recherche, ils ne peuvent pas s'empêcher, même s'ils croient à la Chine comme un pays innovant dans l'avenir, à se dire mais qu'est-ce que c'est que ce système de propriété intellectuelle où on peut avoir comme ça des gens qui, qui prennent en otage des marques ou des technologies de la sorte. Donc ça, c'est, je pense que ça, c'est vraiment pas bon et ça nuit à l'image de la Chine en général. Et je pense que ça se reflète, ça s'est reflété dans la participation.
Et on termine, André, avec le key event de la semaine.
Oui, alors le key event, bah, évidemment, c'était sous forme mécanique mondiale. Et pour moi, il y a un key event qui se raccroche à ce que je vous avais dit il y a quelques mois où il y avait une bataille boursière sur le premier développeur immobilier chinois, Vanke. Je vous disais que c'était assez révélateur qu'il y avait des choses qui bougeaient, qui étaient en train de bouger sur la corporate governance, sur la gouvernance d'entreprise en Chine. Et bien là, véritablement, coup de théâtre, Wang She ainsi que les 10 administrateurs nommés par lui. Wang She, je vous rappelle, c'est une des premières fortunes de Chine, un des plus grands développeurs immobiliers, qui a créé de toutes pièces son groupe absolument gigantesque qui est à Shenzhen, qui est le plus grand développeur d'appartements en Chine. Eh bien, il se retrouve maintenant par rapport à deux actionnaires minoritaires. Il a essayé un petit peu de jouer le rapport de force. Eh bien, les deux actionnaires minoritaires, qui sont un autre développeur immobilier de Shenzhen et China Resources, qui est un groupe, une vraie institution, faisant beaucoup d'activités, eh bien, ont annoncé qu'ils allaient demander une assemblée générale pour tout simplement résilier et démettre les 10 administrateurs qui sont à la main du fondateur. Donc, alors, c'est vraiment complètement nouveau. C'est que on a un coup de théâtre à l'américaine quasiment, et on a un board entier, un fondateur qui risque de se retrouver à la porte de leur propre entreprise parce que ils pensaient que c'était ils confondaient un petit peu leur entreprise et leur propre position. Donc ça, c'est nouveau et ça va. Je dirais qu'au-delà de Wang She, qui est en plus quelqu'un de très bien que je connais à titre personnel. C'est un peu dommage, mais c'est plutôt révélateur que là, pour le coup, les choses vont dans le bon sens et que, eh bien, on n'est plus complètement dans le Far West.
Merci beaucoup, André.
À la semaine prochaine, Mathieu.
Et restez avec nous tout de suite, un autre investisseur qui est avec nous en studio, David Bavret.
Chine Hebdo, l'économie made in China sur BFM Business.
Et c'est l'investisseur David Bavret qui vient de nous retrouver en studio. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes investisseur à Hong Kong, auteur de Génération Tonique aux éditions Plon. Vous venez maintenant assez régulièrement dans Chine Hebdo pour nous dire ce que vous voyez dans votre radar. Hein, comment est-ce que les lignes bougent dans la société chinoise. Cette question que tout le monde se pose maintenant depuis 2008, c'est ce fameux ralentissement de l'économie chinoise, ralentissement qui semblait maîtrisé par Pékin, mais en même temps plus fort que prévu. Je pose toujours la même question, mais en même temps, les conséquences peuvent être tellement spectaculaires qu'il faut absolument savoir aujourd'hui où on en est. Est-ce que le ralentissement, à l'heure où l'on parle, est maîtrisé ou est-ce qu'il faut s'en méfier ?
Alors, il y a ralentissement. Hein, et ma statistique préférée, moi je fais pas de macroéconomie, ma statistique préférée, c'est le marché de la bière.
Marché de la bière.
Qui en volume est en baisse.
Ouais.
Et donc vous pouvez pas avoir un pays qui boom et un marché de la bière qui est en baisse en volume. Ça n'existe pas. Donc c'est pour moi un des meilleurs. Vous savez, je fais de la micro et pas de la macro. C'est un des meilleurs indicateurs qui prouve, parce que les Chinois aiment bien la bière.
Donc, que c'est pas la consommation qui va nous aider à changer de modèle, en douceur en tout cas.
Ben, ça, c'est un peu la surprise. C'est pas vraiment une surprise, parce qu'on sait toujours que la propagande du gouvernement chinois est trompeuse. Le rééquilibrage de l'économie par la consommation intérieure, en fait, ne marche pas. C'est-à-dire qu'il y a certes une consommation intérieure, elle fait entre plus 5 et plus 10, alors qu'en fait, elle devrait faire plus 15 pour qu'il y ait un véritable rééquilibrage. La réalité, c'est que comme tous les 10 ans, la Chine est obligée de se poser la question, le modèle économique que j'ai poursuivi, donc on revient à 78, 97, 2008, chaque fois, tous les 10 ans, la Chine est obligée de se réinventer. Et ce qui est très intéressant...
Ça, elle se prend un mur tous les 10 ans, sauf que derrière, elle a une capacité de rebond qui est toujours assez impressionnante.
Oui, mais alors qu'en Occident, on pense que on regarde la Chine de manière très monolithique. En fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit des dissensions à l'intérieur du gouvernement entre un Premier ministre Li qui essaye de sauver sa peau pour l'an prochain, pour le renouvellement du comité permanent, en disant « je continue à arroser de dettes toutes les sociétés, y compris les sociétés étatiques ». Donc ce sont les 700 milliards de dollars de dettes qui ont été lancés dans la nature au premier trimestre. Et puis de l'autre côté, vous avez Xi Jinping et ses amis Prince Li qui disent Ben si on peut pas augmenter les salaires, c'est parce qu'il y a pas de productivité, c'est parce qu'il n'y a pas de productivité. La productivité, il faut qu'on aille la chercher en Occident. Là, vous voyez, il faut qu'on aille acheter la technologie. Et donc, la conséquence, c'est que nous entrons dans une nouvelle ère, qui est l'ère d'un boom du M&A, qui va être conduit par les sociétés chinoises.
C'est ça. Donc, pour résumer, si je comprends bien, David Bavray, on a en gros le gouvernement chinois qui, ces dernières années, a fait le pari de la bascule d'une économie beaucoup plus soutenue par la consommation, sauf que aujourd'hui, la consommation n'est pas assez forte pour que le pari soit réussi, et donc les autorités disent à toutes leurs entreprises, déployez vos ailes, allez à l'étranger.
Bah, le problème, ce sont les inégalités de richesse. C'est le fait qu'au-delà de 100, je crois qu'on l'a dit déjà dans cette émission, au-delà de 100 à 150 millions de consommateurs, il n'y a plus de il y a un consommateur à $700 par mois, pas à 1500 ou 2000. Donc, ce marché qu'on nous vend de 200 à 300 millions de consommateurs, en fait, on s'aperçoit que, en fonction des industries que vous regardez, vous, en fait, au-delà de 100 à 150 millions, vous plafonnez. Et la manière dont on va résoudre le problème, c'est des gains de productivité, puisque la productivité n'est que 20% de celle des États-Unis, grâce à la technologie occidentale, qui va permettre d'augmenter les salaires et qui va permettre de créer une consommation intérieure. Donc le plan de déroulement est toujours le bon, simplement on est un peu repoussé dans le temps.
Avant d'aller plus précisément sur cette stratégie d'acquisition à l'étranger, je voulais revenir sur cette motivation du Premier ministre Li Keqiang à arroser peut-être de dettes toujours à l'intérieur du pays. Est-ce que là on n'est quand même pas, et c'est toujours la grande interrogation qu'on se pose régulièrement, est-ce qu'on n'est pas assis sur une bombe à retardement là ?
Non, en fait, c'est un schéma, nous Français, on peut très bien comprendre, parce que c'était le schéma historique de la Ve République. Vous aviez un président de la République qui était protégé par son Premier ministre. En fait, là, c'est l'inverse. Vous avez un président qui va à l'étranger en permanence pour faire la nouvelle route de la soie, etc., et qui laisse son Premier ministre à la maison sur le marché domestique en disant « l'économie est un gros problème, donc c'est à toi de le régler. Et si tu n'arrives pas à le résoudre d'ici l'an prochain, eh ben, ça me permettra de te dégager lorsque je vais renouveler le comité permanent en 2017 ». Donc nous si on comprend, on est habitué au schéma de la Ve République, ce qui est exactement la même chose.
C'est un pays extrêmement endetté aussi, la Chine, aujourd'hui. Ça, c'est un problème ou pas ?
Ben, pas plus que vous. Chine, les dettes sont 250% du PNB. C'est exactement la même chose que l'Europe, que le Royaume-Uni, que le Japon et que les États-Unis. La différence, c'est un chiffre qu'on ne mentionne jamais, c'est 20 000 milliards de dollars qui sont les dépôts bancaires, qui sont 200% du PNB. Donc quand on dit qu'il y a une fuite des capitaux chinois parce que 500 milliards partent par an, ce sont 2% des dépôts bancaires. Donc 2% de dépôts bancaires, c'est pas ce qu'on appelle une fuite des capitaux.
En fait, de toute façon, ils ont assez de liquidités pour demain pouvoir absorber n'importe quel choc ou...
Surtout pour se lancer dans le M&A, puisque je vous rappelle qu'en France, les investissements cumulés chinois, 7 milliards d'euros, c'est-à-dire absolument rien. En 2010, la Chine investissait en Europe 10 milliards. Là, vous voyez que l'an dernier, à l'étranger, elle a dépensé 1100 milliards, qui était ce qu'ils mettaient dans les années 2000 dans les bons du Trésor américain. Et là, depuis le début de l'année, on est à 100 milliards. Et vous le comprenez très bien. À l'exemple de la France, il y a tout un débat sur les Chinois achètent des terres agricoles à côté de Châteauroux, 15 000 euros l'hectare au lieu de 5 000, sur des transactions de dizaines de millions. Ça n'a aucun... On s'en fout. En revanche, vous voyez qu'il y a un débat sur Accor. Accor, c'est 10 milliards. C'est 10 milliards d'euros. Donc nous passons, la stratégie chinoise passe en l'espace de quelques mois, de transactions en dizaines de millions à transactions en dizaines de milliards. On fait fois 1000 en l'espace de quelques mois. On comprend bien...
On change de braquet, c'est assez spectaculaire. Mais restez avec nous, on marque une courte pause, David Bavray, et on va continuer de voir un peu quel genre d'emplettes ils peuvent faire et ce qu'ils pensent finalement de l'Europe, qui vit une crise historique en ce moment, et est-ce que ça peut changer la perception des choses vu de Pékin, tout de suite.
Chine Hebdo, Mathieu Jolivet sur BFM Business.
Bienvenue si vous nous retrouvez dans cette dernière partie de Chine Hebdo. C'est l'investisseur David Bavray qui nous accompagne, basé à Hong Kong, auteur de Génération Tonique aux éditions Plomb. Vous nous parliez de ces 20 000 milliards de dollars, c'est spectaculaire, hein, qui dorment dans les banques en Chine. Et finalement, une réserve colossale sur laquelle s'appuie Xi Jinping pour dire à toutes ces entreprises, déployez vos ailes, allez acheter à l'étranger. Et en particulier, on voit ce qui intéresse, il change de vitesse, vous nous l'expliquez, il y a quelques minutes. Ce qui les intéresse aussi particulièrement, ce sont les pépites et les grands groupes en Europe. Europe qui, tout le monde le voit, traverse une crise historique depuis que la Grande-Bretagne a décidé de sortir de l'Union européenne. Est-ce que ça, ça peut changer la manière dont la Chine voulait s'appuyer sur l'Europe pour se déployer à l'étranger ?
Ben, le grand gagnant du Brexit, c'est la Chine. On ne sait pas encore s'il va y avoir Brexit ou pas. Personnellement, je pense qu'il n'y aura pas de Brexit, mais que ça va prendre beaucoup de temps. Ça va prendre sans doute 2-3 ans pour éviter la sortie des Anglais. Pour la Chine, c'est la meilleure des solutions, puisque à très court terme, ça continue de diviser l'Europe, donc ça leur permet de négocier pays par pays, par opposition à négocier avec une Europe unie de 400 millions de personnes qui aurait du poids. Deuxièmement, ça prouve que la Chine, de manière structurelle, sait se réformer, alors que nous, en Europe, on voit bien qu'on est incapable de nous réformer. Les deux seuls pays qui sont réformés, c'est l'Angleterre et l'Allemagne, depuis 2008. C'est la raison pour laquelle Mme Merkel ne veut certainement pas de Brexit.
Mais d'ailleurs, Jean-François Dimélio nous en parlait là il y a un quart d'heure dans Chine Hebdo. Il nous disait que les éditorialistes chinois en ce moment se frottent les mains en disant « Regardez ce beau modèle démocratique occidental, comment ils foncent dans le mur avec cette histoire de Brexit et d'Europe qui se divise. »
Il
se frottent les mains, en tout
cas. Non, mais il n'y a qu'une personne qui est pro-Brexit, apparemment, c'est François Hollande, puisque ça lui permet de sortir de l'Europe, un des pays qui a fait le travail. Je rappelle que l'Angleterre, 2008, les dépenses publiques 45% du PNB, aujourd'hui 40% qui vont à 35%. L'Allemagne, en 2008, 50% des exportations étaient dans la zone euro. Aujourd'hui, c'est 5% seulement. Donc ce sont deux pays qui se sont complètement reformatés à la suite de 2008, alors que toute l'Europe du Sud, elle, à part un peu les Espagnols, n'a pas fait grand-chose. Donc si vous voulez une crise bancaire... cet été, en plus, c'est plutôt sympa d'aller dans l'Europe du Sud durant les vacances. Il n'y a pas besoin d'aller en Chine. Vous allez en Italie, en Espagne, et vous allez voir ce à quoi ressemble une crise bancaire et une crise de l'euro. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que nous rentrons, dans la rebelote de la crise de 2008. Vous voyez, ces grandes crises historiques, il y a toujours deux phases, il y a toujours une retombée. Et là, nous allons retomber. Nous, l'Occident, parce que nous ne sommes pas suffisamment réformés depuis 2008. Et le grand gagnant va être la Chine, qui va arriver avec ses liquidités et qui va pouvoir négocier notre technologie occidentale dans les meilleures conditions. Donc concrètement, en France, on attend en général qu'on soit fait. Donc c'était Peugeot il y a un an, c'est Areva aujourd'hui, c'est EDF demain, et ce sera STMicro dans les semi-conducteurs après-demain.
Mais est-ce qu'ils ont vraiment la capacité de mettre la main sur des pépites technologiques chez nous ? On voit bien que plus ça va, plus il y a un spectre d'entreprises assez large qui vont rentrer dans le champ, on va dire, d'entreprises stratégiques. Et donc protégées par les États.
Oui, mais alors, vous savez, il y a un proverbe chinois que j'aime beaucoup, c'est « il faut toujours manger dur et pas mou ». Et nous, Français, je pense qu'on traduirait ça par « il faut jamais bander mou ». Et en fait, quand je vois les négociations aujourd'hui, notamment sur le statut d'économie de marché, je pense que la Chine mange dur et que l'Europe bande mou. Et donc, si on ne réagit pas, on va être les perdants.
Si on réagit pas, on va être les perdants. Et en même temps, est-ce que vous ne craignez pas, David Bavret, qu'on se dirige quand même vers des nouveaux blocs protectionnistes qui finalement freineront les velléités chinoises ou même occidentales à aller mettre la main sur des belles pépites à l'étranger. Il y a quand même un souffle protectionniste qui est de plus en plus fort, non, autour de
oui, alors très concrètement, j'invite nos auditeurs à...
Je veux aussi du côté des États-Unis, avant
absolument.
La prochaine présidentielle.
Je crois qu'il y a deux situations à observer de très près. C'est KUKA en Allemagne, que le chinois Midea essaie d'acheter.
Pour la première fois, Angela Merkel a...
Absolument.
Assuré la mâchoire.
Et c'est Accor en France, où on voit bien qu'il y a une montée des intérêts chinois. Donc face à ça, je pense que... En fait, la vraie question, c'est est-ce que l'Europe va rester naïve ou est-ce qu'elle va adopter l'approche américaine qui consistait à dire aux Chinois, nous traitons de puissance à puissance. Donc, quand GE vend GE Appliances, si vous êtes suédois, Electrolux, vous l'achetez 3 milliards, et quand les autorités anticoncurrentielles vous empêchent de l'avoir, et que ailleurs chinois vient, les Américains disent, vous êtes chinois, c'est pas 3 milliards, c'est 5,5 milliards. Vous êtes chinois, vous devez payer 80% plus cher. Et quand Syngenta est racheté par les Chinois, eh bien, les Américains disent, désolé, vous ne pourrez pas, enfin, c'est en discussion, potentiellement, vous n'aurez pas les activités américaines. Donc, je crois que...
Même s'abriter derrière aussi un principe de réciprocité qui n'est pas respecté en Chine, tout simplement. On dit, attendez, le jour où vous nous laisserez mettre la main sur Taobao, peut-être qu'on rediscutera et peut-être que vous pourrez nous prendre d'accord.
C'est ça qui est très intéressant dans le marché des fusions-acquisitions, qu'on voit des investisseurs arriver au cycle, payer des prix... excessif. On l'a déjà vu. On avait les Japonais à fin des années 90. On avait les fonds de private equity américains en 2007. Là, ce qui est différent, c'est que, d'abord, c'est l'ampleur du phénomène, puisque nous allons assister à la plus grosse diversification d'actifs de l'histoire du monde. 20 000 milliards de dollars qu'il va falloir diversifier partout dans le monde. Et puis, deuxièmement, les Chinois changent la règle du jeu du M&A, donc c'est qualitativement qu'ils changent les fusions acquisitions en liant systématiquement leurs cibles au sort de leur marché domestique, en disant soit, si vous ne me le donnez pas, je vous ferme le marché domestique, c'est l'exemple de l'industrie informatique américaine, soit, si vous me vendez la société, je vous ouvre le marché chinois. C'est Syngenta à qui on dit, si vous vendez à nous, eh bien, le marché chinois pour la nourriture GM, modifié génétiquement, il vous est ouvert. Donc forcément, vous dites, c'est bien plus intéressant de dealer avec les Chinois. Donc vous comprenez, on va avoir, et c'est ça qui va être passionnant, dans les 12 à 24 prochains mois, nous allons avoir une seconde jambe de cette fameuse crise de 2008, où en fait les Chinois s'en fait un peu avoir la première fois, puisqu'ils ont sauvé le monde, mais en mettant de la dette qu'aujourd'hui ils ont sur les bras, et cette fois-ci ils vont dire, nous avons les liquidités, nous arrêtons de mettre de la dette chez nous pour créer une demande intérieure qui n'est pas là, nous allons profiter de cette seconde jambe de baisse pour aller racheter toute la technologie occidentale. Donc les 12-24 prochains mois pour les auditeurs de Chine Hebdo vont être absolument passionnants.
Et on les suivra et décryptera, comprendra un peu comment ces lignes bougent là-bas grâce à vous, notamment David Bavret. Je rappelle, vous êtes un investisseur à Hong Kong. On retiendra peut-être cette formule de cette interview. La Chine mange dur pendant que l'Europe bande mou. Merci beaucoup David Bavret.
Merci, au revoir.
Restez avec nous. On termine avec la chronique de votre universitaire et chef d'entreprise, Emmanuel Linco.
BFM Business, Culture Chine.
Culture Chine avec votre chef d'entreprise et universitaire Emmanuel Linco qui préside Signe Stratégie, qui est aussi professeur des universités à l'Université catholique de Paris. Chaque semaine, il décrypte pour nous la relation géostratégique qu'entretient la Chine avec un pays tiers. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Mathieu.
Cette semaine, Emmanuel, vous nous avez extrait une musique qui vient du Maroc. Hein.
Oui, absolument, empreinte de spiritualité un peu austère, mais pour parler précisément des relations entre la Chine et le Maroc.
Des liens historiques ?
Des liens historiques, informels, mais très importants. L'un des grands voyageurs et chroniqueurs du monde arabe, Ibn Battuta, qui avait vécu au XIVe siècle, s'est rendu jusqu'à Canton et a laissé à la postérité des témoignages tout aussi intéressants que ceux de Marco Polo, en effet, et il était d'origine marocaine.
Et en même temps, aujourd'hui, le Maroc n'est pas forcément, aux yeux de Pékin, la porte d'entrée la plus évidente ou naturelle sur l'Afrique, si ?
Clairement, on l'a bien vu à l'hiver dernier, effectivement, lorsque Xi Jinping s'est rendu au Proche-Orient et au Moyen-Orient, il a privilégié, bien sûr, l'Égypte. Mais en même temps, le Maroc, comme la Chine, peuvent avoir des intérêts communs. Et c'est ce qu'a rappelé récemment un représentant en Chine de la Banque marocaine du commerce extérieur, Adil Zelou, qui disait ceci, « Nous sommes une porte d'entrée pour l'Afrique ».
Voilà, et donc ça vous évoque, vous aussi, en tant que chef d'entreprise, des réflexions, notamment sur le Maroc, qui peut devenir un hub interrégional pour la Chine.
C'est clair, et Rabat entend jouer très certainement la carte de la francophonie et le fait d'être un interlocuteur potentiel entre l'Europe et l'Afrique. Et rappelons que Mohamed VI, donc le souverain du Maroc, s'est rendu le 11 mai dernier, précisément, à Pékin, où il a signé plus de 110 millions de contrats.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi un lien à faire avec la France? Est-ce que Pékin peut s'appuyer sur la France pour mieux développer et s'implanter au Maroc, lui-même porte d'entrée du continent africain, quand on connaît les liens historiques entre la France et le Maroc?
C'est ce que l'on souhaiterait en effet, mais clairement la diplomatie chérifienne rappelle précisément par des voies de détour et d'une manière toute chinoise, je dirais, à la diplomatie française que celle-ci n'a pas la priorité justement dans le monde africain. La preuve,
parce que si lien diplomatique il doit y avoir avec la Chine, le contact doit être direct.
Absolument. On ne passe plus par la case Paris, précisément. Et pourquoi ? Parce qu'il y a un épisode, évidemment, sur le long terme, qui indispose la diplomatie marocaine, c'est la question du Sahara occidental. Et Paris, comme les autres capitales occidentales, ont toujours eu une attitude assez ambiguë par rapport à la question du Sahara occidental. Est-ce que le Maroc à une pleine et entière souveraineté sur cette région ou non. En tout cas, une chose est sûre, c'est que se rapprocher de Pékin, c'est obtenir par là même des Chinois un gage, une assurance sur le rappel de la souveraineté du Maroc dans cette partie du monde. Et précisément, la Chine, évidemment, joue un rôle de plus en plus important en Afrique et le Maroc entend se rapprocher de l'un des acteurs les plus incontournables aujourd'hui de l'Afrique, à savoir la Chine.
Merci Emmanuel Linco.
Merci Mathieu et très bel été.
Bel été à vous aussi. Voilà, on se quitte avec cette magnifique musique marocaine spirituelle que nous a extrait Emmanuel Linco. Chine Hebdo, c'est déjà terminé. On vous souhaite un très très bel été à tous. Hein. Vous pourrez continuer à nous écouter. On vous a concocté un best-of des meilleurs moments de Chine Hebdo pour passer un bel été. Vous retrouverez toutes vos chroniques précieuses. Très bel été à tous. On se retrouve dès le mois de septembre pour de nouvelles aventures chinoises.
Chine Hebdo, l'économie made in China sur BFM Business.